En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc on va commencer par une petite séance de méditation. On laisse le corps faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire être un corps. On le laisse se détendre. Et au niveau de l'esprit, on met l'esprit en vacances. En vacances de préoccupation. Comme quelqu'un qui a accompli une journée bien remplie, qui a fait tout ce qu'il avait à faire, qui peut enfin rentrer chez lui et s'asseoir dans son fauteuil sans plus penser à rien. On laisse tomber nos préoccupations relatives à ce qui s'est passé, nos préoccupations relatives à ce qui va se passer. On se met en vacances. On s'autorise à être simplement là, à profiter de la fin d'après-midi. Et quel que soit le mouvement qu'on peut percevoir, il y a toujours un point immobile. Il y a toujours un point immuable. Si vous avez du mal à trouver ce point immobile, vous pouvez le visualiser sous la forme d'un carré jaune. Situé en dessous du nombril, au centre du centre du ventre. On dit au cœur de la montagne. Un point imaginaire, situé en dessous du nombril, là où on sent le ventre qui se soulève et qui s'affaisse. Visualisez un carré jaune, un petit cube jaune, de la taille d'un pouce, qui nous évoque la stabilité, le chez-soi. Cosy, confortable, sécurisant. Au centre du ventre. Donc le mois dernier, on avait commencé la sagesse. Voilà, est-ce que vous avez envie de revenir dessus
Oui.
Par rapport à ce qui a été dit ouais, le mois dernier, il y a des choses... Je crois qu'on avait pas mal développé l'impermanence. Le fait que tout change tout le temps, Et que le fait de constater l'impermanence, ça peut être une porte d'entrée pour faire naître la sagesse. Et je vous relis la strophe. Sans la sagesse, par les seules cinq perfections, nous ne pouvons atteindre l'éveil parfait. Cultiver la sagesse discriminante qui est dotée de tous les moyens habiles et ne conceptualise pas un sujet, un objet et leur interaction, et par conséquent la pratique d'un bodhisattva. On parle de quatre obstacles qui nous empêchent de voir la sagesse. Les quatre obstacles, c'est que d'abord c'est trop simple. Ça, c'est le premier obstacle, c'est trop simple. On n'imagine pas que la sagesse, c'est sous notre nez. C'est tellement simple que voilà, on l'envisage pas. Et on s'imagine qu'il va falloir travailler dur pour ça. Qu'il va falloir éventuellement faire des retraites de 3 ans, de 5 ans, de 12 ans, dans des grottes himalayennes. Ou alors qu'il va falloir faire des pèlerinages en se prosternant. Et on n'imagine pas que la sagesse, c'est quelque chose qui nous appartient. C'est une clé qu'on a en nous et qu'elle est sous notre nez. Le deuxième obstacle, c'est que c'est trop proche. Trop proche dans le sens, l'idée c'est les cils sont tellement proches qu'on les voit pas. Bah, ça, c'est un peu cette idée-là, c'est sous notre nez. C'est tellement sous notre nez, c'est tellement dans l'instant présent. Que c'est trop proche de nous et alors qu'on imagine que on atteindra l'éveil dans une fois qu'on aura pratiqué peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, une fois qu'on aura tout purifié, etc. Ça se fait ici et maintenant. Ça doit se découvrir ici et maintenant. C'est trop bon, ça c'est le troisième obstacle, c'est trop bon. Dans le sens où on est tellement habitué à fonctionner avec nos problèmes que du coup on n'envisage même pas ce que ce serait de pouvoir vivre sans souffrance, sans problème, sans que tout soit facile, qu'on soit débarrassé de nos obstacles. Ça nous paraît inenvisageable parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. On ne le conçoit pas. Trop bon et enfin trop profond. Trop profond quand on touche à, quand on expérimente, quand on utilise cet outil qui est la sagesse, ça dépasse le référentiel égocentré, le petit moi autour duquel le monde tourne. Avec la sagesse, en fait, le petit moi est complètement largué, complètement dépassé. Ça aussi, on n'en a pas l'habitude. C'est en ça qu'on dit c'est trop profond. On change complètement de référentiel. Il n'y en a plus, on le fait exploser. Et donc, pour faire naître la sagesse, il va falloir utiliser les paramitas. On a vu toute l'année, générosité, à force de travailler les paramitas, les vertus, la générosité, l'éthique, la patience, etc., ça va faire naître la sagesse. Et si on fait naître la sagesse, ça va faire en sorte que ces vertus deviennent des paramitas, justement, des vertus transcendantes. Donc ça va se répondre. Plus on pratique les paramitas, plus on développe la sagesse, plus on développe la sagesse, plus on donne aux vertus une dimension justement transcendante. Elles deviennent des paramitas. Et on a vu le mois dernier que c'est en regardant, on pouvait commencer par développer cette intuition qu'est la sagesse, en regardant la permanence. Et ensuite, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi les choses sont impermanentes? C'est parce qu'elles sont interdépendantes. Ça, c'est une notion qu'on voit beaucoup dans le bouddhisme, cette notion d'interdépendance. Et son synonyme, c'est la vacuité. On parle énormément de la vacuité dans le bouddhisme. Quand on parle de la vacuité, c'est on parle de l'interdépendance. On parle de la même chose, mais on va dire sous deux angles différents. Mais il s'agit de la même chose. L'interdépendance. les choses ont des répercussions sur tout, s'influencent, s'interpénètrent. Et c'est précisément parce qu'elles se répercutent, que les choses voilà, s'interpénètrent, que les choses apparaissent. Si les choses étaient solides, des entités solides, réellement, existant réellement, elles ne pourraient pas changer, elles ne pourraient pas s'interpénétrer. On aurait le soleil, on aurait l'océan, et puis les choses ne s'influenceraient pas, ça resterait tel quel, solide, etc. Mais du fait de l'interdépendance, moi je prends un exemple, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais du fait de l'interdépendance, en fait, ça ne se passe pas comme ça. S'il y a du soleil, s'il y a de l'océan, inévitablement, il va y avoir condensation, il va y avoir des nuages. Ça fait apparaître un troisième paramètre. Mais le nuage n'existe pas en tant que tel. Il n'a pas d'existence propre. C'est la combinaison de soleil plus océan plus pas mal de paramètres qui font qu'à un instant T, il y a apparition d'un nuage. Et là, on fait apparaître un troisième paramètre. Si on fait apparaître un troisième paramètre, ben, y en a d'autres qui vont apparaître et ça s'arrête jamais. Qui dit nuage, bah, dit de la pluie. Qui dit de la pluie, dit un sol fertile. Qui dit un sol fertile, bah, dit les conditions pour la graine favorable, pour donner une plante, un arbre, etc. Et puis qui dit un arbre, dit de l'oxygène dans l'atmosphère. Et puis qui dit de l'oxygène, bah, dit voilà, des conditions favorables pour la vie humaine, etc. Et ça s'arrête jamais. C'est une mutation constante parce que chaque fois qu'il y a un nouveau paramètre, bah, il influe sur les autres. Et quand on parle de nuages, on a vraiment, voilà, quand le nuage nous apparaît, on a l'impression, du fait de cette apparence-là, que le nuage existe réellement en tant que tel. Mais c'est déjà un processus qui est déjà en train de changer. C'est juste à un instant T, la combinaison de tel élément plus tel élément donne le nuage, mais c'est déjà en train de changer. Le nuage se transforme et puis devient de la pluie. Et puis, par exemple, bah voilà, quand on voit une feuille de papier, à l'instant T, on voit une feuille de papier. Mais quelque part, dans cette feuille de papier, on devrait voir tout l'univers. Pour que cette feuille de papier soit là, il a fallu un arbre. Pour qu'il y ait un arbre, et bah, il a fallu de l'air, de la pluie, du soleil. Il a fallu le bûcheron pour couper l'arbre. Il a fallu le pain quotidien du bûcheron, il a fallu les parents du bûcheron, et puis en fait, on peut finalement voir tout l'univers dans cette feuille de papier. Tout l'univers, à cet instant précis, prend la forme d'une feuille de papier. Mais l'instant d'après, peut-être voilà, une heure plus tard, quelques années plus tard, c'est plus une feuille de papier, c'est autre chose. Si je décide de le déchirer et j'en fais des confettis, c'est plus un morceau de papier, c'est des confettis. Mais n'empêche que, à cet instant précis, ça prend la forme d'une feuille de papier. Ça nous apparaît comme une feuille de papier. Mais la feuille de papier n'existe pas en tant que telle. C'est la combinaison de plusieurs choses en interdépendance qui nous font apparaître les choses comme ça à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on dit bah, qu'on devrait apprendre à voir les choses comme ça. On devrait apprendre à voir tout l'univers dans une feuille de papier. Comme on voit, par exemple, un arc-en-ciel... Qui nous apparaît, voilà, on ne nie pas qu'il nous apparaît très clairement, c'est très clair. Mais l'arc-en-ciel n'existe pas par lui-même, c'est la combinaison de l'humidité dans l'air, d'un angle de voilà, d'un rayon de soleil, et puis un angle particulier qui nous fait apparaître quelque chose, mais qui n'a pas d'existence propre. Si on cherche le, voilà, on ne peut pas trouver le début, la fin de l'arc-en-ciel, pourtant, on ne nie pas qu'il nous apparaît en tant que tel. C'est pour ça qu'on dit qu'il est vide d'existence propre. C'est ça la vacuité. Si on ne dit pas il existe ou il n'existe pas du tout, ce qu'on s'efforce de regarder, c'est comment il existe. Pour voir que, bien qu'étant apparent, il n'existe pas en tant que tel. L'arc-en-ciel n'a pas de réalité propre. C'est la combinaison de la lumière, de l'humidité, etc. qui provoque cette apparition à un instant T. Et je dis, voilà, je vois l'arc-en-ciel. Et cette prise de conscience voilà, qu'on peut avoir, même de manière intellectuelle, on va essayer de l'amener de manière expérimentale. Pour appliquer cette compréhension à ce que nous sommes, nous, à notre façon de nous concevoir. L'idée de la vacuité, parfois on pourrait conclure « donc je n'existe pas du tout », c'est pas du tout le propos. L'idée, c'est plutôt d'apprendre à voir comment j'existe, sans justement être tenté de conclure « oui j'existe » ou « non j'existe pas du tout ». Et ça c'est difficile parce que il y a ce qu'on appelle cette tendance chez tous, ce qu'on appelle la soif, à vouloir se définir. La soif, c'est un mouvement qui est très difficile à voir parce que c'est très profond. La soif, c'est cette c'est ce mouvement en fait qui cherche à vouloir se définir et à définir les choses, à mettre les choses dans des cases, dans des catégories, parce que c'est très rassurant en fait de pouvoir se définir. Et notamment, c'est comme ça que marche le principe de l'ego. La croyance en l'ego, ça vient d'une ignorance fondamentale, de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, qui va être accrue par cette soif, cette sorte de malaise face à justement la vacuité, qui fait qu'on va chercher à se définir, à définir ce qui est de l'ordre de l'infini. L'esprit est infini. Et pourtant, on va essayer de, quelque part, on va vouloir, pour se rassurer, chercher à se définir à travers un prénom, à travers une identité, à travers ce que je fais dans la vie, ce que j'aime pas, etc. Chaque fois qu'un événement apparaît, il y a la tentation de le prendre comme attache pour pouvoir se définir. Si j'ai une pensée, je vais essayer de la prendre en otage pour dire « donc je pense ». « Je pense donc je suis ». S'il y a une tristesse, « donc je suis triste ». S'il y a une colère, donc je suis colérique. S'il y a une joie, donc je suis joyeux. Il y a toujours cette tentation de vouloir se définir par rapport à tout ce qui s'élève dans l'esprit. Et en méditation, c'est ce qu'on va faire. Comment on va développer la sagesse ? Eh bien, tout simplement en regardant les choses sans a priori. C'est-à-dire, on va pas prendre parti, on va pas faire de procès ni de verdict. On va observer les choses telles qu'elles sont, mais sans trier. Sans dire « ça c'est une bonne pensée, ça c'est une mauvaise pensée ». Je regarde comment les choses émergent, je les laisse émerger, mais je ne tire pas de conclusion. Et on s'est aperçu en méditant que, effectivement, au départ, quand on a appris à méditer, on supposait éventuellement que s'il y avait une pensée, c'est parce qu'il y avait un penseur. Et puis on se rend compte qu'en observant plus profondément, avec des années de pratique, des mois de pratique, on se rend compte que non, finalement, quand on regarde profondément les pensées, on se rend compte qu'on n'est pas capable de savoir quelle pensée va émerger dans 5 ou 10 minutes. Donc déjà, il y a une expérience sur la pensée. Avant, on pensait qu'il y avait un producteur de pensées, puis on se rend compte que finalement, si on y regarde de plus près, les pensées s'invitent, parce qu'il y a des causes et des conditions qui font que telle pensée émerge. On se rend compte que on arrive à regarder les choses de manière subtile, notre œil rencontre un objet visuel, ça fait naître une pensée. Et éventuellement, ça fait naître peut-être une émotion derrière. On regarde que les choses finalement naissent par interdépendance. Il n'y a pas un producteur de pensée, il y a des choses qui se mettent en place qui font que la pensée émerge. Objet visuel, contact visuel, conscience visuelle, et ça donne lieu à une pensée. Donc on voit que la pensée, elle aussi, c'est un facteur interdépendant. Elle naît parfois à cause de causes et de conditions. Ça c'est des mots, mais au niveau expérimental, c'est beaucoup plus rapide. Quand on le voit quoi. On voit conscience visuelle, et puis on voit la pensée qui émerge, et on voit que ça entraîne éventuellement une émotion derrière. Donc on voit comment émerge l'émotion, et on voit que l'émotion n'existe pas par elle-même. C'est un processus, de choses en interdépendance. Si on se rend compte de ça, ça va énormément, il peut y avoir une détente qui va s'installer par rapport justement à ce qui émerge dans notre esprit, parce qu'on va se sentir On va pouvoir permettre une distance avec ça. Si on observe les pensées et qu'on décrète que il n'y a pas forcément quelqu'un qui produit les pensées, donc quelque part il n'y a pas lieu forcément de vouloir rejeter telle pensée ou vouloir retenir telle pensée. On se rend compte qu'il y a plein de choses qui ne sont pas de notre sort, qui sont là et qui font que tel élément pensée s'invite dans notre esprit et qu'on n'en est pas le responsable entre guillemets. Donc ça se dégonfle. On commence à dégonfler l'histoire de bonne pensée, mauvaise pensée. On se rend compte aussi avec l'entraînement que peut-être au départ, alors qu'on nous l'a rabâché, quand on nous disait méditer, on cherchait à calmer les pensées, faire en sorte que ce soit toujours des bonnes pensées, ou que ce soit toujours le calme absolu, etc. Après quelques mois ou d'années de pratique, on se rend compte que c'est pas comme ça que ça marche. On sait très bien qu'une méditation la veille qui s'est bien passée où l'esprit était calme, on se remet sur le coussin le lendemain, l'esprit est agité, plein de préoccupations, etc. Et peu importe notre entraînement à méditer, on se rend compte que on va pas faire la guerre avec l'esprit. L'esprit, parfois il est en mouvement, parfois il n'y a pas de mouvement. Mais le fait de reconnaître ça, on apprend à surfer. On apprend à justement trouver ce point immobile au milieu de l'agitation, ce point inaffecté, on va dire. Qui est mouvement, pas de mouvement. Le but du jeu, c'est pas de calmer. On le sait par expérience, on sait que c'est pas comme ça que ça marche. Le but, c'est de trouver comment me détendre, quels que soient les facteurs qui arrivent. Justement, en arrêtant de m'impliquer. Qui dit émotion, dit pas forcément. Qui dit tristesse, dit pas forcément je suis triste. Qui dit colère, dit pas forcément je suis colérique. Ça n'implique pas forcément ça. On peut laisser l'émotion pour ce qu'elle est, une émotion. Qui est là parce qu'il y a des causes et des conditions. Et le fait de ne pas être identifié, c'est ça le but de la méditation. Et plus on va faire cet exercice sur le coussin, plus au bout d'un moment il sera nécessaire d'emmener cette méditation en dehors du coussin. Mais le fait de méditer par exemple le matin, ça peut vachement changer la donne. C'est-à-dire si on médite pendant 10 minutes, ce matin je médite et puis je constate qu'il y a de l'irritation dans mon esprit. Là aussi, on peut regarder que cette irritation, on ne sait pas forcément d'où elle vient. Peut-être qu'on a mangé un mauvais truc la veille, ou on a mal digéré, ou on a fait des mauvais rêves, etc. Mais le fait est que on s'assoit sur le coussin ce matin et on s'aperçoit qu'il y a de l'irritation, il y a de l'impatience, des choses comme ça. Ça déjà, c'est une expérience qui peut nous être profitable, dans le sens où si on le voit, quand on va partir dans l'activité, ça va nous éviter de faire porter le chapeau de cette irritation sur les collègues, sur les gens, sur les situations. On sait que cette irritation, elle était là. Mais il y a une distance, c'est pas nous l'irritation. Il y a des causes et des circonstances qui font qu'il y a de l'irritation. Et avec notre pratique et notre compréhension, on comprend bien que le but, c'est pas d'étouffer l'irritation, de faire en sorte qu'elle disparaisse. Le but, c'est de gérer cette situation où il y a de l'irritation, où il y a éventuellement de l'impatience, etc. Et un homme averti en vaut deux. C'est-à-dire, si on le sait, effectivement, on va expérimenter les symptômes de l'irritation et de l'impatience. Quand on est impatient, on a l'impression que tout va au ralenti. Mais on sait que c'est nous qui induisons ça. On ne fait pas porter le chapeau aux autres parce que, on a envie de leur dire « accouche » ou alors « les embouteillages ou les choses vont pas assez vite, internet, l'ordinateur, etc. » On sait que nous induisons cette impatience, donc cette irritation, mais le fait de le savoir, ça nous permet d'être libre, d'agir, de dire des choses, de faire des choses, mais pas poussé par l'irritation, pas poussé par la... C'est ça l'enjeu, c'est de gérer cette émotion-là. Tout en comprenant justement qu'elle ne vient pas des autres. On ne fait pas porter le chapeau aux autres. Ça change énormément de choses. Si on l'a observé pendant les 10 minutes de méditation qu'il y avait ça, du coup on a cette vigilance. On est alerte. Forcément, s'il y a de l'irritation, si on est impatient, ça va être inconfortable. On va sentir des choses inconfortables, mais on est OK avec ça. on est ok, et on sait, comme on sait que l'inconfort nous l'induisons, bah on va gérer les situations comme on le ferait normalement. C'est-à-dire avec patience. On va pratiquer la patience. On sait que c'est pas la faute de l'autre. C'est plus on travaille comme ça, plus la sagesse nous permet de voir ce qu'on est. De voir ce qu'on est, donc on a vu quelque chose d'impermanent, mais on va de manière plus profonde. On voit qu'on traverse plein d'états émotionnels, plein de sensations, plein de perceptions. On voit que tout ce à quoi on est identifié, ça bouge. Simplement par cette observation-là, que qui dit irritation, on ne se sent pas obligé de s'identifier à quelqu'un qui est irritable. Qui dit colère, on ne se sent pas obligé d'être, voilà, de se dire, voilà, c'est normal, je suis colérique. Là, on sclérose quelque part l'expérience. On va trop vite, on conclut trop vite. Il y a colère, donc je suis colérique. Ah, puis je suis tout le temps comme ça. Et puis, on fait la même chose avec les émotions qu'on juge positives. D'ailleurs, il y a de la joie, il y a de la compassion, il y a de l'amour. Bah oui, c'est normal, je suis quelqu'un de bien. Bah voilà, je suis bien, je suis... etc. Mais là encore, on tombe dans le piège de vouloir s'identifier. Et c'est d'autant plus facile avec les émotions positives. On aimerait bien, justement, que ça soit tout le temps comme ça. Mais le travers qui peut apparaître, c'est que bah, y a des gens, où nous, parfois, on peut se surprendre à vouloir paraître toujours bien. Même s'il y a des choses qui vont pas bien, même si on a appris cette nouvelle, bah, on est au boulot, et puis on fait comme si de rien n'était, puis on affiche un visage toujours souriant, le mec assure, le mec toujours en forme, etc. On peut en voir aussi des gens comme ça. Et... Mais quelque part, le danger de ça, c'est que ça, au bout d'un moment, on va être au pied du mur. Et parfois, ça peut donner des gens qui, justement, bah, une fois qu'ils sont chez eux dans la solitude, bah, ils deviennent dépressifs. Toujours paraître, tout dans le paraître, parce qu'on est identifié à ces choses-là. Le fait d'observer profondément les choses, bah, ça va nous permettre de voir ce qu'on est profondément, plus profondément. C'est-à-dire, plutôt que de s'identifier à tout ce qui nous arrive, on fait corps avec ce qui est, mais sans s'identifier. On est ok avec le fait d'être, voilà, d'être dans un sentiment de joie, dans un sentiment de compassion, d'amour. Et en même temps, on ne va pas chercher à s'inquiéter que ça disparaisse, à s'inquiéter voilà, de « Ah, je suis bien là, il faut que je reste comme ça, etc. » Il faut absolument que... Voilà. Parce que dès qu'il y a ça, il y a une angoisse qui s'installe, il y a une tension. Et du coup, bah... La détente disparaît, la paix disparaît. On est en train d'essayer de maintenir artificiellement quelque chose qui n'est pas cet ordre-là. Ça passe. Et puis parfois, on se surprend à être un con. Il y a des jours où voilà, on se sent con. Mais là aussi, le fait de ne pas être identifié à ça, bah, on l'accepte d'autant plus facilement. Voilà, il y a des causes, des circonstances qui font que bah, oui, aujourd'hui, on se sent con. Et puis on paraît con, on nous le renvoie bien, etc. Mais c'est ok. Si justement on n'est plus en train de se débattre, mais plus dans l'observation de cette chose-là, bah ma foi, ça va, c'est ok, ça va passer, tout passe. Les moments agréables, les moments désagréables, les moments où on est au top, les moments où on n'est pas au top, voilà, ça passe. Et donc du coup, nous, on se détend par rapport à ça. Et en plus de se détendre par rapport à ça, bah, on est détendu aussi par rapport au regard des autres. C'est-à-dire que bah, on est ok par rapport au fait de renvoyer l'image de quelqu'un qui est vraiment à la masse. Et puis on est ok par rapport au fait de renvoyer quelqu'un qui est au top, etc. Parce qu'on sait que peu importe comment les gens nous voient, parce que voilà, on voit de quoi on est fait. Et c'est ça qui remet en question ce qu'on appelle la vacuité du moi. La vacuité du moi, c'est pas le fait de se sentir, voilà, je suis bien, je suis en forme, je suis au top, je me sais être. Voilà, au top, etc. Mais c'est l'idée de ne pas s'identifier en tant que c'est ce que je suis. Non, c'est ce qui m'est donné de vivre à ce moment-là. Voilà, c'est le moment présent. Et on sait avec la sagesse que tout ça, ça passe. Donc il n'y a pas lieu de retenir, il n'y a pas lieu de sacrifier, il n'y a pas lieu de rejeter. Puisque le moi n'est pas menacé, puisque le moi n'a pas d'existence propre. C'est ça l'idée. Il n'a pas d'existence propre, c'est-à-dire il fluctue. C'est une fluctuation et qui va fluctuer au gré des influences, au gré des circonstances, etc. On se rend compte peut-être de ça quand on... Moi, par exemple, quand j'ai pris les vœux de moine, la personne qui a pris les vœux de moine n'est pas la même que la personne que je suis ici. Même si j'ai toujours les vœux de moine et que je trouve toujours du sens à être moine, n'empêche que la personne qui a pris cet engagement-là il y a 10 ans, c'est plus du tout la même et c'est plus du tout les mêmes raisons. Mais voilà, je suis plus cette personne-là, mais n'empêche que la personne que je suis actuellement trouve toujours du sens, peut-être un sens différent et une façon de penser différente, à être moine aujourd'hui. Peut-être que quand on se marie, la personne qu'on rencontre, avec qui on décide de se marier, c'est pas la même personne qu'on fréquente, même si voilà, on est toujours marié avec 20 ans de mariage derrière. Peut-être que la personne avec qui on continue, c'est plus du tout la même. Et nous, on n'est plus du tout la même, mais on continue à vivre ensemble parce qu'on trouve du sens à ça, à évoluer ensemble, à s'apporter ensemble, etc., à s'aimer, etc. Mais n'empêche que si on regarde profondément, c'est pas forcément la même personne qu'on a rencontrée. Et on n'était pas la même personne à ce moment-là. C'est ça, cette idée de vacuité du moi, un moi qui serait identique à chaque instant et qui se déplacerait au gré de chaque expérience, qui serait toujours le même. C'est ça qu'on remet en question. On observe profondément, en fait, on le remet en question, mais cette idée ne se résout pas, elle va se dissoudre en fait, se dissoudre à force de regarder les choses. On ne ressent plus le besoin, on sent plus pertinent de s'accrocher à cette idée d'un moi qui serait identique. C'est, voilà, je suis ce que je suis là. Hier j'étais pas ça, demain je serai plus ça, je suis ce que je suis là. Et ça suffit amplement. J'ai pas besoin d'autre chose pour fonctionner avec justesse avec ce qui se passe. Et voilà, c'est toujours donc relié à cette interdépendance. Le problème du moi, c'est plus insidieux que ça, c'est ce que ça implique en termes de mien, mon, ma pensée, mes émotions, ma façon de penser. C'est ça qui est insidieux en fait. Et qui va poser problème, c'est le fait de mes goûts. Les goûts, ça change. Les notions de beau et de laid, voilà ce qu'on décrète comme étant beau, comme étant laid, et voilà, on s'identifie à ça, on se rend compte que c'est, il n'y a pas plus subjectif que la beauté. J'aime le jazz, c'est bien, le reggae, c'est nul. Le jazz, c'est de la bonne musique, le reggae, c'est pas de la même musique. Il n'y a pas plus subjectif que ça. C'est... Si on observe les choses profondément, le fait d'aimer telle musique et de ne pas aimer une autre musique, c'est totalement... évidemment, il y a la musique, il y a la mélodie, mais il y a tout ce que ça nous renvoie en termes de conditionnement. Et qui fait que tel enchaînement de notes, à tel moment, il faut être réceptif, faut être à l'écoute, etc. Ça provoque une sensation agréable, et de cette sensation agréable, on décrète cette musique est belle. Et si ça provoque une sensation désagréable, on va dire cette musique est pas belle. Et c'est ça qu'en fait on va s'amuser à observer, à remettre sur le tapis ces notions de beau et pas beau. Pour comprendre que c'est pas tant la musique en elle-même qui est belle ou pas belle. C'est là encore des causes et des circonstances qui se mettent en place pour qu'il y ait plaisir. Et s'il y a plaisir, très facilement je conclus, c'est parce que la musique est belle. Comme si la musique par elle-même avait la faculté d'être belle, avait été belle par nature. Si elle était belle par nature, on serait tous d'accord, tous unanimes. Si elle est belle par nature, tout le monde trouverait telle musique belle. Mais il se trouve que ça marche pas comme ça. Même les animaux la trouveraient belle. Même quelqu'un qui n'aurait aucune initiation à la musique classique, d'emblée, il trouverait ça beau. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. On peut la trouver belle, l'autre à côté, non. Mais ce qu'on remet pas en question, c'est... On remet pas en question le fait d'éprouver une sensation désagréable ou agréable. Ça, aucun problème. Qu'on n'aime pas cette musique, on n'aime pas cette musique. C'est l'idée d'accuser la musique de ne pas être belle ou d'être belle, quelque part. On lui donne une caractérité. Mais la musique, elle n'a rien demandé. Elle est un enchaînement de notes. Elle n'est pas par nature belle ou pas belle. Elle plaît à certains, elle ne plaît pas à certains parce qu'il y a des causes et circonstances, des affinités, des conditionnements qui font que... C'est comme le vin. Pour apprécier un bon vin, il faut toute une initiation. Si on n'a pas cette initiation, on peut nous faire goûter le meilleur vin, on ne sera pas à même de l'apprécier. Pourquoi ? Parce que le vin n'est pas bon en lui-même. Il est le vin. Il est ce qu'il est. Et puis nous, peut-être avec une initiation ou par absence d'initiation, etc., on l'apprécie pas. Parce que, une belle femme, un bel homme, là aussi, il n'y a rien de plus subjectif, quoi. Voilà, en Occident, les critères pour une belle femme, c'est d'être maigrichonne, fine comme un fil de fer, et puis vous faites quelques milliers de kilomètres, au contraire, femme orientale, c'est l'opulence, danse orientale, faut que ça bouge de partout, etc. Et c'est le comble du sexy, quoi. Il n'y a pas plus subjectif que ça. Et pourtant, vous allez avoir des gens qui vont dire « Mais comment tu fais pour apprécier ta musique ?»« Mais comment on peut apprécier ta musique ?» Ça, c'est le fait de ne pas observer les choses telles qu'elles sont. Parce que quelqu'un qui observe les choses telles qu'elles sont, vraiment, il observe qu'il apprécie cette musique et il est tout à fait à même de comprendre, de concevoir que quelqu'un n'aime pas cette musique-là. Ou trouve que ce tableau n'est pas beau. L'art, c'est pareil, il n'y a pas plus subjectif.
À l'inverse, est-ce qu'on peut trouver une œuvre belle sans l'apprécier, sans être ému par cette œuvre ?
On peut comprendre qu'elle plaise. On peut comprendre, par exemple, un tableau ou une musique, on peut en comprendre la subtilité, on peut comprendre le talent de l'artiste, on peut comprendre ça, donc comprendre que ça plaise à certains, et pourtant ne pas du tout être sensible à ça. Ça me touche pas, je comprends, mais ça me touche pas. Ouais, je comprends que ce film, ça t'a plu, c'est bien fait, il y a un bon réalisateur derrière, c'est bien agencé, etc., mais moi ça m'a pas touché. C'est ça qui est intéressant justement dans la sagesse, c'est on comprend les mécanismes, on comprend comment ça apparaît, on comprend pourquoi expérience agréable, pourquoi expérience désagréable, c'est le comment ça émerge. Mais on comprend la vacuité du beau, la vacuité de l'agréable, la vacuité de ça, dans le sens où c'est pas existant par soi-même. Si c'était beau par soi-même, tout le monde serait d'accord, tout le monde serait unanime, et tout le temps. Pour dire que telle femme, par exemple, ou tel homme est beau, du matin au soir, tout le temps, de la naissance jusqu'à la mort, y compris en passé. Voilà, il est beau par... il y a un peu cette idée-là, quoi. Vacuité, vous comprenez le rapport entre pourquoi on parle d'interdépendance quand on parle de vacuité, c'est ça. Chose n'existe pas par elle-même, mais pourtant, on dit, on se comprend. Ce coucher de soleil est magnifique. Mais tout en le disant, on sait que c'est pas le coucher de soleil par lui-même qui est magnifique. Le soleil, il a rien demandé à personne. Il se couche, il se lève, il se couche. Il n'est pas beau par lui-même, il fait son truc. Mais il se trouve que il y a des circonstances qui se mettent en place. Un agencement de nuages. Le soleil n'est pas encore couché, il n'est pas encore trop haut. Donc c'est à l'instant T où il y a les couleurs chatoyantes. Et puis il y a un angle de vue qui nous permet de le voir. Et puis il y a une disposition d'esprit. Il faut être dans une certaine disposition d'esprit pour pouvoir l'apprécier. Si on a appris peut-être une mauvaise nouvelle, etc. Et puis qu'on n'en a rien à cirer, on passera à côté. On dira pas, on se laissera pas toucher. Pour être touché, il y a tout un... Et on dit le coucher de soleil est beau. Et tout en le disant, la sagesse c'est comprendre que l'autre à côté il n'est pas réceptif et on comprend. Comment ?
Il me semble beau.
Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que dans la sagesse, on parle de vacuité, se libérer de la conception d'un sujet, d'un objet et de l'interaction entre les deux. Je ne sais plus comment c'est dit. Cultiver la sagesse discriminante, qui est dotée de tous les moyens habiles et ne conceptualise pas un sujet, un objet et leur interaction. La sagesse discriminante, c'est-à-dire la sagesse qui sait ce qui est
vrai de, qui discerne ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, on ne tombe pas dans les travers de « ça existe » ou « ça n'existe pas du tout ». Non, c'est comment ça existe. On voit comment ça existe. Et donc, voilà, ne conceptualise pas un sujet, un objet et leur interaction. L'idée d'un moi, l'idée d'un... En fait, ça va même plus loin, parce que dans cette notion d'interdépendance, on se rend compte que pour pouvoir exister, on dépend d'énormément de choses. On dépend de notre environnement. On dépend même de notre environnement à chaque instant, à chaque respiration. Il suffit qu'on s'arrête de respirer voilà, pendant un quart d'heure et c'est terminé. Donc à chaque instant, en fait, on est en interdépendance, en interrelation avec l'environnement. Chaque respiration, il y a le sang qui circule. À chaque fois qu'on mange, c'est pareil. On ingurgite des éléments de l'extérieur pour maintenir le soi en vie. Donc on voit bien que le soi, en fait, qui se décrète comme autonome, indépendant, bah, ça le remet vachement en question. En fait, c'est aussi un système qui est totalement relié à l'extérieur. On dépend des autres aussi. Pour vivre. Quand on est totalement vulnérable, et puis aujourd'hui on dépend quelque part ce qui se passe à l'autre côté de la planète, bah, ça a une influence sur nous. Si on coupe voilà, si on coupe la forêt amazonienne à des milliers de kilomètres, bah, ça va avoir des répercussions sur l'air qu'on respire. On est totalement concerné finalement par ce qui se passe autour de nous, par ce que font les gens, parce que bah, le fait qu'on puisse vivre, bah ça va dépendre de ça. Donc quand on parle de soi et de l'autre, quelque part on se rend compte que bah, c'est, là aussi c'est une conception. On apprend à, avec l'interdépendance, on apprend à voir ce que nous sommes en tant qu'interdépendance et voir l'autre, pas en tant que autre, mais en tant que moi aussi. Le bonheur des autres nous incombe, parce que du bonheur des autres dépend notre bonheur. Si l'autre n'est pas heureux, s'il tombe dans l'avidité, s'il tombe dans la colère, s'il tombe dans etc., bah ça va forcément, tôt ou tard, avoir un impact sur moi. Donc en me préoccupant de l'autre, je me préoccupe de moi. Dalai Lama, il parle de c'est une sorte d'égoïsme intelligent. Mais c'est un égoïsme, en fait, intelligent dans le sens où il prend conscience de l'interdépendance. Et c'est pas une théorie du bouddhisme, c'est simplement le fait d'observer les choses telles qu'elles sont. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le... Quand on dit ce corps, mon corps, il y avait Rinpoche Rinpoche qui disait au séminaire dernier, je ne sais plus si c'était au séminaire dernier, il disait qu'il avait assisté à un colloque de scientifiques qui lui disait que notre corps était composé à 80, je sais pas, un pourcentage énorme, 80% de bactéries, c'est-à-dire de mon corps était 90% de autre que moi. Et pourtant, de ces organismes qui ne sont pas moi, bah, dépend mon propre corps. Et voilà, on parle de mon corps. On parle de mes pensées, ma façon de penser. Ça aussi, c'est intéressant de voir que bah, notre façon de penser, on parle même de propriété intellectuelle. C'est intéressant parce que on s'approprie complètement une idée, mais une idée, en fait, pour l'avoir, elle a forcément été influencée par quelqu'un. Si aujourd'hui on pense comme ça, bah c'est parce qu'on a rencontré des gens, on a rencontré des situations qui nous font penser comme ça, et peut-être il y a 10 ans on pensait pas du tout comme ça. Voilà, nos idées ont changé. Nos idées, bah finalement ça aussi, ça évolue au gré des influences, au gré des circonstances. Donc ça remet en question voilà, cette idée du moi, autre. Tout ce qu'on prononce comme parole aura des répercussions sur moi. Tout ce que je prononce comme parole aura des répercussions sur les autres. C'est pour ça que voilà, on fait énormément attention à la parole dans le bouddhisme. On nous invite vraiment à avoir une parole consciencieuse, avec une voir quelle est l'intention qu'on cherche à véhiculer, parce que les paroles ne sont pas anodines, elles ont une portée puissante. On peut faire du bien avec la parole, on peut faire du mal avec la parole, beaucoup de mal avec la parole. Donc voilà cette notion de voilà ce cette interdépendance qui va faire se dissoudre l'idée du sujet, de l'objet et de l'interaction. Et on va essayer d'amener ça dans toutes les paramitas, dans la générosité, dans l'éthique, dans la patience. Dans la générosité, par exemple, voilà, se libérer de l'idée d'un soi qui est généreux. L'idée d'un soi qui est généreux et donc qui va donner à des gens qui le méritent. Voilà. Voilà, c'est telle personne, j'ai une bonne impression, sensation agréable, voilà, elle le mérite, je lui donne. Puis voilà, telle personne, une sale gueule, délice sale gueule, toi je te donne pas. Mais comment ça naît ça? Enfin, quand on, justement, quand on observe profondément, voilà, c'est ça, on voit que. La Matsutri, par exemple, il nous dit souvent d'utiliser cet exercice quand on monte dans le métro ou quand on croise une personne, de voir la première impression qui naît dans l'esprit. De voir que c'est aussi rapide qu'un claquement de doigts. On voit un visage et tout de suite il y a une sensation agréable, désagréable ou neutre. Mais de voir que c'est nous qui induisons ces conditionnements. C'est immédiat. Celle-là, on la sent bien, puis celle-là, on la sent pas. Et puis si on les regarde profondément, bah, on peut être libre de ça. Et donc du coup ne pas voilà, conclure c'est parce que cette personne sale gueule, parce que à mon avis c'est pas bon quoi. Quand on regarde ça, bah du coup on en est libre, donc on peut fonctionner normalement, voilà, se libérer de cette conception, parce qu'on le voit en tant que conception, et puis bah peut-être parler 2 minutes avec elle, on va se rendre compte que bah justement ça confirme que c'était juste une conception. Que finalement cette personne nous apparaît au contraire très, très sympa, très sympathique, etc. Et donc la sagesse, voilà, c'est un truc. C'est un outil. C'est comme voilà, mettre des lunettes correctives et l'idée c'est de les mettre le plus souvent possible. C'est une façon de voir, s'entraîner à arrêter de poser des verdicts, mes pensées, mes émotions, pour laisser les émotions les regarder telles qu'elles sont. Une émotion est une émotion, une pensée est une émotion, une pensée. Dire mon émotion, ma pensée, bah, c'est déjà, on rajoute quelque chose. Qui est pas forcément pertinent et puis qu'en plus peut nous poser des problèmes. On en reste là quoi. C'est une émotion, bah je la regarde pour ce qu'elle est, pas de procès, pas de verdict, et moins je m'identifie, bah plus en fait justement bah il y a une détente qui va s'installer, parce qu'on voit que l'émotion elle peut pas se maintenir par elle-même. C'est là aussi un processus interdépendant. S'il y a une condition qui disparaît, bah l'émotion disparaît avec, elle fait son chemin. Et puis si elle disparaît pas, bah ma foi OK. Pas de problème.
Une émotion et une vibration, est-ce que c'est la même chose, hein?
Je sais pas. Vibration, je sais pas. Je vais te dire comment j'entends vibration et puis tu vas me dire un truc. Par exemple, les mots en eux-mêmes n'ont pas de vibration. Par contre, on peut y mettre une intention. Si je parle d'amour, voilà, si je dis à quelqu'un « je t'aime » et que j'y mets une intention, voilà, j'y mets une, ouais, ce que je ressens, la personne va le sentir. Si je demande à un robot, voilà, une vocalise, de répéter « amour » ou n'importe quel mot, etc., c'est juste des syllabes, il n'y a pas de vibration. Voilà, le mot amour ne véhicule pas la syllabe ne véhicule pas de vibration en elle-même. Par contre, si on y met une intention, là oui. C'est un peu le principe des mantras. Les mantras par eux-mêmes, voilà, quand on parle du mantra de la compassion, Om Mani Padme Hum, on dit c'est le mantra de la compassion. Les syllabes ont par elles-mêmes véhiculent une vibration, mais pas par elles-mêmes. En fait, ça n'est efficace que si on y associe une intention. Quand on récite le mantra de Chenrezig, il faut que l'esprit soit avec. Si on passe à autre chose, Vous pouvez réciter Om Mani Padmé Hum des milliers de fois, il ne se passera rien. Par contre, si en récitant Emmanuel, on pense évocation, compassion, identifié à Chenrezig, on pense à la souffrance de tous les êtres, et on pense qu'à chaque mantra qu'on récite, eh ben, on imagine que ça libère tous les êtres que ça touche, que le son se diffuse, voilà, on fait appel à la créativité de l'esprit. On imagine que le son se propage et touche tous les êtres. Là, du coup, à chaque fois qu'on prononce le mantra, on le charge. On y associe. Donc c'est pour ça que c'est une méditation. C'est à chaque fois qu'on prononce, il faut le charger d'une intention. S'il n'y a pas d'intention, il ne se passe rien. Donc, je prononce intention. Je prononce compassion. 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 Et si vous le faites effectivement des milliers de fois, au bout d'un moment, votre mantra, il aura pour vous une vibration réelle. Il sera chargé. À chaque fois que vous le prononcerez, ça vous renverra. Ça fera, ça rebondira, ça vous renverra cet état d'esprit de compassion. Et là, du coup, on parle de vibration.
Et quand on a une vibration, par exemple, de joie, et...
Bah oui, effectivement, ça touche.
Mais ça peut être aussi une émotion de joie. Hein.
Ouais.
Donc c'est très proche, c'est pareil, non?
Ah oui, alors la différence entre émotion et vibration... Émotion, c'est hein, tu peux ressentir une émotion sans la manifester. Vibration, on est déjà dans quelque chose de manifesté. Alors peut-être qu'il part de l'émotion et qu'il se manifeste par la parole, par un geste ou par quelque chose de tangible, de manifesté. L'émotion par elle-même n'est pas quelque chose de tangible. Une pensée par elle-même n'est pas, ne véhicule pas de vibration puisque c'est juste un mouvement d'esprit. Après, le fait de la saisir et puis peut-être de l'exprimer, du coup, là, ça peut donner lieu. Peut-être on peut se retrouver là, dans cette différence-là, quoi.
C'est subtil, hein.
Ouais.
Propagation d'émotions.
Je sais pas ce que ça vaut, hein. Je te dis juste moi ce que je pense, parce qu'on va pas parler.
De l'intention avec la...
Ouais. Oui, parce que par exemple dans la musique, effectivement, la musique, une mélodie par elle-même n'a pas de. C'est juste des sons. Des sons graves, des sons aigus, une fréquence sonore, etc. Elle ne véhicule pas de quelque part de vibrations négatives ou positives, sauf si par exemple le chanteur de métal, par exemple dans son chant, il véhicule de la haine, etc. Ça, on va le ressentir. Même si on comprend pas les paroles parce qu'il chante dans un langage qu'on connaît pas, on va sentir l'intention qu'il y a derrière. C'est pas tant la musique elle-même qui véhicule, c'est l'intention qui a été mise dans cette musique-là. Ça, je pense qu'on peut le ressentir. Je m'avance un peu, mais c'est un peu comme ça. Mais par exemple, ce que ça peut remettre en question, et qui est intéressant, c'est que... avec la sagesse, on va pouvoir s'ouvrir justement à une plénitude de sentiments. Sachant qu'on n'est pas, il n'y a pas quelqu'un qui est menacé, qu'on voit les choses... telles qu'elles sont, sans forcément s'identifier, du coup on peut s'ouvrir à ces émotions-là. Peut-être des émotions qu'on jugeait, qu'on mettait de côté avant parce qu'on les jugeait négatives pour nous, qu'il fallait surtout pas qu'elles apparaissent, etc. Comme peut-être la jalousie, ou l'avidité, ou la colère, etc. On en a peur, on veut pas, truc. Là du coup on peut s'ouvrir à ça parce qu'on sait que c'est pas ça le problème. L'émotion par elle-même, c'est pas le problème. Du moment que c'est pas elle qui me pousse à dire ou à faire des choses. C'est ça, je prends mes libertés, je m'émancipe de l'émotion, du coup, je peux la laisser être là, je peux laisser l'irritation être là, sans appliquer forcément d'antidote, à ce moment-là, quand j'en suis là. Mais du coup, ça va permettre de goûter ces choses-là, qu'on ne goûtait pas forcément avant, qu'on se refusait à goûter. Goûter la tristesse, goûter l'irritation, goûter le blues, l'ennui. Avant, surtout pas quoi, faut compenser, etc. On va souffrir, on va ouvrir notre expérience. Et on va ouvrir notre expérience en l'amenant dans des lieux aussi qu'on jugeait comme, des lieux propices, des lieux pas propices, des beaux lieux, des mauvais lieux, etc. On préfère manifestement être en pleine nature, dans la montagne, ça c'est bien, ça il y a les bonnes vibes, bonnes vibrations, etc. Mais quand on est au supermarché ou quand on est dans un parking, ça, non, pas bon, ça, c'est mauvais, ça, etc. Avec la sagesse, tout ça, C'est quelque part, on en finit avec ça. Et ça devient quelque chose qui se laisse apprécier. Qui se laisse apprécier dans le sens où qu'est-ce qu'on apprécie? Bah, c'est de pouvoir être dans un parking, d'être en contact avec l'aspect glauque du parking, mais de s'en amuser quelque part, de voir que derrière, c'est un conditionnement. Mais le parking, il n'a rien demandé à personne. Il n'est pas glauque en soi. Il nous renvoie quelque chose, peut-être. Il nous renvoie peut-être une atmosphère de thriller ou une atmosphère de film, etc. Mais quand on en joue de ça, eh ben on peut s'écarter de cette vision qui est conçue. On arrête de concevoir pour voir. C'est ça, voilà. On plonge dans l'expérience. Et c'est très amusant de pouvoir se dire, mais avant je pouvais pas voir comme ça. Et maintenant je peux voir, je peux goûter le parking tel qu'il est. Il a rien demandé, voilà, il est le parking, quoi. Les murs en béton, ils sont ce qu'ils sont, des murs en béton, ils sont ni bien, ni pas bien, etc. Mais ils s'expérimentent, ils se laissent expérimenter. Et voilà, tout se laisse apprécier dans le sens où ça va pas être... c'est la félicité, la félicité, mais pas dans le sens où... ouais, super, je suis dans un parking, quoi. J'adore les parkings. Mais félicité dans le sens où ça se laisse apprécier. Tout se laisse apprécier, tout se laisse goûter parce que tout a une véhicule, une expérience. Véhicule quelque chose qui lui est propre. Et donc, du coup, il n'y a rien à mettre de côté. Il n'y a rien à filtrer. Il n'y a pas des choses voilà, qu'il faut vivre et des choses qu'il ne faut pas vivre. Voilà, je suis dans un parking, bah, ça se laisse goûter. Je suis à la montagne, ça se laisse goûter aussi. Et voilà, ça casse un peu l'image qu'on se fait du bouddhiste, du moine bouddhiste qui, qui vit reculé dans la montagne, dans une sorte de bulle, etc. Non, l'éveil, c'est pas ça. Ce qu'on demande à l'éveil, c'est pas de, justement d'être cantonné à vivre au bord d'un lac lisse et calme au fond de l'Himalaya. Ce qu'on demande à l'éveil, c'est d'être capable d'être en paix, quelles que soient les circonstances, d'être capable de vivre tout ce qui se présente à 100%, quoi qu'il arrive, sans avoir à se mettre à l'abri, sans avoir à se prémunir, etc.
J'avais une petite question, c'est que les gens ont tendance à s'éloigner des personnes négatives. Est-ce qu'au contraire, ce ne serait pas plus intéressant d'être, je ne sais pas, hein, c'est ma question, d'être justement côtoyer des personnes négatives pour essayer de travailler sur soi?
Ben, si tu peux en avoir, justement, si ça devient à chaque fois que tu es en contact avec cette personne négative, ça devient une incitation à pratiquer, ça te rappelle à ta pratique, et alors là oui, carrément même, ça devient un maître à ce moment-là. Mais c'est à nous de voir où est le curseur, c'est-à-dire, est-ce qu'on a la sagesse de pouvoir en tirer profit, c'est-à-dire de pouvoir nous ouvrir et de. L'idée de cette sagesse-là, c'est que c'est un outil, et effectivement, on va d'autant plus solliciter l'outil qu'on va être mis au pied du mur. Si on est mis au pied du mur, on se dit, bon, bah, je vais pas m'en sortir avec mes tendances ordinaires, parce que je sais qu'au contraire, je vais rentrer dans mes émotions, etc. Mais je vais utiliser, si je commence à utiliser la sagesse, bah, je vais précisément l'amener dans ces choses-là, dans ces situations-là, parce que je vais voir que... En l'utilisant, ça me libère. Il faut quand même que qu'on soit suffisamment, qu'on est familiarisé avec l'outil pour voir que ça nous libère. Tiens, quand j'utilise la sagesse, cette personne, je ne la perçois plus, enfin en tout cas, sa négativité, je n'en suis plus affecté et je suis libre parce que je vois les choses de telle manière. J'arrive à voir cet angle de vue où je ne suis plus perturbé par ça. Là, du coup, cette personne devient intéressante parce qu'elle fait office de rappel quelque part. C'est « Ah, je suis titillé, il y a quelque chose d'inconfortable, ça devient mon support. Ah, bah, comment faire ? Hop, sagesse. Ah, ça va mieux. »
Et si on n'est pas capable de se faire ce travail, du coup...
On peut mettre de la distance. Si possible, parce qu'on ne peut pas forcément mettre truc. Mais l'idée, c'est justement, la sagesse, c'est ce qui nous permet d'arrêter de voir que c'est la personne qui est négative en soi, c'est on voit qu'est-ce qu'on induit qui fait que on ne supporte pas d'être en contact avec cette personne, et donc du coup on n'arrive pas à dire les choses telles qu'on le voudrait, à agir telles qu'on le voudrait, on ne se sent pas libre. Et c'est très inconfortable, et ça qui nous fait dire, c'est que cette personne est nuisible, cette personne est négative. Avec la sagesse, voilà, on fait appel à ça, parce qu'on a trouvé cet angle de vue qui nous fait ah en fait voilà quand je regarde les choses comme ça ben en fait je, la personne elle peut être telle qu'elle est, ça me pose plus de problème. Ça me pose plus de problème, ça veut pas dire que je cautionne sa façon de faire ou sa truc hein, si je dois mais moi ça n'affecte pas ma paix. Je suis paisible et c'est parce que justement je suis paisible que je vais pouvoir agir de la bonne manière, peut-être lui dire les choses de la bonne façon sans rentrer dans le l'agressivité. Je réponds par l'agressivité, par une autre voilà, une échelle, une escalade de violence, etc. Je peux dire les choses calmement, librement, paisiblement, consciemment, etc. Parce que justement, il y a pas, je suis pas affecté par le fait qu'elle soit comme ça. Moi, je vais m'arrêter là. Vous avez des questions ?
L'esprit est conceptuel.
Comment ?
L'esprit est conceptuel.
Bah, l'esprit, ça fait partie du des facultés de l'esprit. Le mental, par exemple, c'est ça, c'est une fonction de l'esprit. Qui a la fonction de concevoir. Et c'est très pratique. Maintenant, voilà, ça, c'est très pratique pour raisonner, pour se projeter, pour plein de choses, quoi, pour réfléchir, etc. Mais en méditation, on ne va pas faire appel à cette faculté. On va apprendre justement à voir derrière les concepts. Arrêter de concevoir pour voir directement. Même quand on dit, par exemple, quand on observe voilà, un mouvement comme la tristesse, bah, rien que le dire c'est de la tristesse, c'est déjà un concept, c'est déjà une désignation de quelque chose qui se met en place, d'un mouvement, d'un échantillon du processus. On fait un arrêt sur image, et puis on dit, bah, arrêt sur image, ça c'est la tristesse, ça c'est la faculté de concevoir. C'est pratique parce que du coup on va pouvoir en parler, voilà, pouvoir décortiquer, etc. Mais... avec la sagesse et la méditation, etc., l'idée c'est de goûter à ça, mais sans s'arrêter à c'est de la tristesse, ou c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien, etc. C'est. Je goûte, j'expérimente ce que c'est, au-delà de mes désignations.
Tout à l'heure, vous avez dit qu'on n'était que 10%, c'est ça, 10% de.
Non. Je me souviens pas des chiffres, mais c'était assez exorbitant.
Et du coup, c'est quoi ces 10%, c'est 80%.
Bah, en fait, il disait, bah voilà, il y a nos cellules, voilà, qui effectivement, on peut parler de nos cellules, encore que nos cellules. Là aussi, hein, c'est des éléments en interdépendance, etc., qui se forment, qui se font, qui se défont, etc. Mais c'était pour parler de nos bactéries. Quand on voilà pour justement remettre en question l'idée d'un soi et l'idée de l'autre et de voir que ce soi et l'autre bah même dans notre quand on dit mon corps bah on voit que mon corps est constitué de corps d'autres. Voilà, c'était cette idée là.
En fait, en nombre, il y a beaucoup plus de bactéries que de cellules de notre corps. Et elles sont plus petites. Donc en masse, par contre, c'est à nouveau nos cellules sont plus grosses et donc on récupère le truc en masse. Mais en nombre, effectivement, on est surtout des bactéries.
On est surtout des bactéries, c'est quand même fou, quoi.
Et juste par rapport à la question, la sensation douloureuse, une douleur, par rapport à la tristesse et l'esprit, c'est une ironie, mais quand on a une sensation douloureuse,
ah bah, on est bien d'accord que c'est super dur, on va dire que c'est même le point le plus difficile à se désidentifier de la douleur. Il y en a qui arrivent, hein. Il y en a qui arrivent à se désidentifier, les fakirs par exemple. Je prends un exemple extrême. Voilà, c'est-à-dire, voilà, c'est... Il y a expérience douloureuse et puis par une force de concentration, on est capable de se désidentifier de la douleur pour qu'elle soit juste perçue comme une sensation. Mais il n'y a plus l'étiquette agréable, désagréable qui vient, c'est juste une sensation. Je suis d'accord, il faut un sacré chiné pour faire ça. Voilà. Mais est-ce que vous avez le temps là?
Oui.
Parce qu'on, c'est vraiment, il y a un enjeu derrière. C'est justement, c'est la sagesse, l'idée d'arriver à se désidentifier de ce à quoi on est identifié. L'enjeu, ça va être, il va avoir une portée plus loin que le fait d'être bien dans cette vie. Un bien-être temporaire, on va aussi en profiter, si on s'est bien entraîné, lorsque va arriver la maladie, et puis la mort évidemment, la vieillesse, la mort, etc. Et on le voit bien avec la maladie déjà. À quel point ça nous demande de nous désidentifier, c'est un deuil, c'est le deuil par exemple d'être au top, le deuil d'être en forme, le deuil... de réfléchir voilà, à 100%, d'avoir un mental qui répond bien, d'avoir des facultés physiques qui répondent bien, etc. Bah voilà, un bras en moins, etc. Bah, en vrai, il y a un deuil à faire, quoi. Si je suis identifié à deux bras, bah, au bout d'un moment, je vais devoir être au pied du mur, de voir que, voilà, comment faire. Voilà. Comment fonctionner
sans... On utilise toujours ses deux mains. Ouais. Oui, on se retrouve complètement coincé pour dévisser quelque chose.
Ou alors on demande à Béatrice.
C'est Béatrice qui fait tout.
Mais déjà que c'est pénible, mais en plus il y a la double peine qu'on peut s'infliger, c'est d'abord on fait le deuil de pouvoir fonctionner qu'un bras, puis en plus il y a le fait de ne pas accepter cette truc parce qu'on est attaché au fait de se concevoir comme ayant deux bras. Je pousse le bouchon. Déjà, on le voit dans la maladie. Si on est identifié à quelqu'un qui est toujours au top, ça va être non seulement c'est pénible d'être malade, mais en plus on va devoir affronter, faire face au fait d'être cassé dans notre identification de quelqu'un qui est toujours au top. Alors soit on lutte, et on essaye de paraître toujours en forme. Il y en a qui sont dans le déni de la maladie, dans le déni, etc. Et qui essayent de, d'être... Non, tout va bien, c'est bon, etc. Et puis... on va être au pied du mur quand même. Il y a une invitation derrière. Il y a une invitation à voir ce que nous sommes, au-delà de ça. La vieillesse en soi n'est pas un dukkha. Par contre, ça peut amener un dukkha. Si.
J'écoute.
Comment? Quand on dit, quand on parle de la souffrance, dukkha, c'est vraiment, on traduit par souffrance, par contrariété, mais on parle de dukkha, c'est-à-dire le symptôme d'une illusion. La vieillesse est un processus normal, c'est pas un dukkha en soi la vieillesse. Par contre, ça peut amener un dukkha. Si j'envisage que mon bonheur, c'est de paraître toujours jeune, au bout d'un jour, je vais être au pied du mur de mon illusion, et je vais être très contrarié. Parce qu'effectivement, avec la vieillesse, il y a le fait d'être fatigué, le fait de ne plus pouvoir faire ce qu'on faisait avant, etc. Soit on vieillit très bien, parce que je veux dire, la vieillesse en soi n'est pas un dukkha. Il y a des gens qui vieillissent très heureux, qui sont très heureux tout en étant vieux, parce que on apprécie l'expérience telle qu'elle est, sans l'associer forcément à ce qu'on était avant, sans l'identification de ce qu'on était avant, et qu'on ramène sur ta vie, qu'est-ce que c'était bien avant, etc., je peux plus faire ça, etc. La maladie, la vieillesse, etc., à chaque fois, ça va être des invitations. Soit on va être au pied du mur de notre illusion, effectivement, être contrarié, soit on va être invité à lâcher, et à voir ce qu'on est au-delà, justement, de ce qu'on ceux à quoi on est identifié en termes de forme, de santé, etc. Et la mort, ça va être le point culminant de ça. C'est-à-dire, on va être invité. Non, on va pas être invité, on va être au pied du mur. Là, on n'aura pas le choix. On va être obligé
de lâcher.
Quelque part, c'est l'invitation à découvrir ce qu'on est au-delà de tous nos conditionnements, parce que tout va nous, l'herbe va nous être retirée. C'est ça qu'on dit ? On nous retire de l'herbe sous les pieds ?
Mais
couper sous les pieds. Mais absolument tout. Jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus que ce qu'on est en essence. Et le processus, voilà, quand on parlait de la méditation, de la dissolution des éléments, il est là l'enjeu. C'est de voir que... on peut le faire intellectuellement. Quand on va être en fin de vie, il y a... Effectivement, nos proches vont disparaître. Voilà, si on était attaché à nos proches, il va falloir leur dire au revoir. C'est pas une personne qui va mourir, c'est pour nous, c'est tout le monde qui va mourir. Nos biens vont disparaître. Si on est identifié à nos biens, on va se rendre compte qu'on va pas pouvoir les emmener avec nous. Ça, c'est l'aspect le plus grossier. Mais admettons qu'on arrive à faire le deuil de ça, qu'on arrive à... Ok, on avance. Ensuite, il y a nos sens qui vont disparaître. Là, ça va être déjà aussi un deuil à faire. Une invitation. La vue va baisser. Si on est identifié au fait de voir, on va se rendre compte qu'on ne voit plus nettement nos proches et que nos vues disparaissent. Si on a fait cet entraînement-là, on va pouvoir rester dans le glissement, rester dans l'expérience, voir que l'expérience est pleine, même sans la vue. Il se prête à nous une nouvelle expérience, sans la vue, mais une expérience qui est pleine, où il ne manque pas quelque chose. Si on est identifié à la vue, on va dire « je meurs ». C'est-à-dire... il y a quelque chose qui est diminué, je diminue, je me sens diminué. Et là, je saisis un moi qui voyait et qui ne voit plus, et donc du coup, je meurs. Donc voilà, je peux rester à ce stade-là. Si j'avance, ok, je vais plus loin. Il y a l'ouïe qui disparaît. Là encore, il y a un deuil à faire, mais si j'arrive à rester dans ce glissement, je vais rester ouvert je vais pouvoir continuer à avancer, à rester dans l'expérience de ce qui est. Au lieu de m'accrocher, j'entends plus, hop, je meurs. Ah, le processus de dissolution des éléments dont on parle, c'est un peu cette idée-là. Mais de manière plus grossière, on va voir les sens qui disparaissent. Et puis nos facultés intellectuelles, ça aussi. On va se rendre compte qu'on n'arrive plus à réfléchir. On comprend plus difficilement les gens. Ça rame, etc. Ça aussi, l'intellect, c'est quelque chose auquel on peut être très identifié. Si on voit disparaître et qu'on est identifié à ça, on va se dire à ce moment-là, je meurs. Il y a encore quelqu'un qui dit, je meurs. Si on voit que c'est juste une pensée, qu'il y a... encore une expérience qui se prête à nous, sans un truc, on va pouvoir rester dans l'expérience. Le « je meurs » reste une pensée. Qui dit « je meurs », voilà. Jusqu'à ce qu'il reste plus que la conscience nue. Il n'y a plus rien, la conscience sans objet. Voilà. On l'appelle la claire lumière. Je sais pas si conscience nue, ça... Mais l'idée du pratiquant qui s'entraîne, à la dissolution des éléments, au yoga de la claire lumière, etc., c'est justement... d'emmener cet entraînement au moment de la mort, qui va devenir le moment privilégié pour réaliser l'éveil. Je vais pouvoir voir directement ce que je suis, justement, au-delà de tout ce qui est conditionné, et auquel j'ai pu peut-être éventuellement m'attacher, mais si je continue, je vais pouvoir réaliser la nature de l'esprit, la conscience nue. Et là, c'est l'éveil, à ce moment-là. Si on arrive à rester dans ce truc... c'est l'éveil, et c'est irréversible. Et c'est un processus qu'on peut s'entraîner à faire au moment de l'endormissement. Si on est suffisamment entraîné, au moment de l'endormissement, chaque soir, quand on s'endort, observez nos sens qui disparaissent progressivement. La méditation sur la dissolution des éléments, c'est ça. On voit l'élémentaire qui se dissout dans l'élément feu, qui se dissout, etc. Et si on arrive justement à rester dans le glissement, et pas tomber dans le coma, c'est-à-dire l'essence disparaître, donc je disparais, coma, perte de conscience. Si on reste dans ce glissement, à ce moment-là, on peut observer ce qu'on appelle la claire lumière fille, Je parle vraiment, c'est de la théorie. Hein. Je ne pratique pas du tout ça, je parle de la théorie. Mais en fait, le corps dort, mais on ne dort pas. Quelque part, on est conscient. Mais le corps se repose, le corps dort, mais on est conscient. C'est un peu ça l'idée.
Mais c'est le yoga du rêve, ça ?
Non, yoga du rêve, c'est quand on travaille avec les rêves. Là, c'est le yoga du sommeil.
Oh, oui, oui.
Yoga du sommeil.
J'ai une question. Quand vous dites qu'on ne parle pas tellement des niveaux d'énergie, on parle alors, on parle de cette. Justement, je suis plein là-dedans, la vieillesse, le corps, les souffrances, on en a partout, etc. Mais il y a quand même des phénomènes liés à la pratique que quelquefois, après une méditation, on est complètement rechargé, là on a été écouté comme dans une bouche, et le fait de. J'étais sur des ailes, j'étais complètement rechargée, je n'étais plus la même personne.
Ah,
donc il y a quand même des niveaux d'énergie, des fois spirituels qu'on reçoit.
Ouais, ouais. Mais en fait. Évidemment, c'est pour ça qu'on va voir des maîtres. C'est pour ça qu'on va suivre des enseignements. Il y en a avec qui on a une connexion et qui fait que.
Des fois, ça arrive qu'on est rechargé. Alors, bien sûr, il ne faut pas rechercher tout le temps d'être rechargé, mais c'est quand même quelque chose qui existe, ça aussi.
C'est une question que tu me poses ?
Oui, je
parce que moi, j'ai pas. Je suis tout à fait ouvert à ce genre de choses, quoi.
Oui.
Après, dans le bouddhisme, on va pas te parler de. On va pas t'en parler en ces termes-là. Donc,
oui,
je vais pas. Et puis, moi, j'ai pas étudié les énergies, etc. Donc, ça, c'est un terme. C'est même un terme qu'on n'utilise pas beaucoup.
Oui.
Mais après, moi, je suis vraiment tout à fait ouvert à ça, quoi. Donc.
Parce qu'on se reconstitue dans un sens. Quand on médite, quoi.
Recharger de quoi? Parce que recharger au niveau du. Bah, effectivement, si on peut aussi se recharger par les aliments, on discutait tout à l'heure, le corps il y a une perte d'énergie, etc. On se nourrit, on choisit nos aliments, etc. Ou on respire un air sain et on se sent rechargé. Avec la méditation, on peut se recharger. On peut recharger le corps jusqu'à un certain point, c'est-à-dire dans le processus de la mort. Là, c'est l'entraînement de l'esprit qui va primer, parce que il est peut-être que voilà, justement, on va être amené à faire le deuil de cette de ce corps qui ne sera plus un soutien valable pour le souffle.
On va parler du souffle tout à l'heure.
Voilà, nous on parle plutôt de souffle, le souffle.
Après tous les éléments, on n'a pas parlé du souffle. Qui
ça? Ouais, parce que là, on rentre dans quelque chose qui...
Ah, d'accord.
Tu vois, là, on parle des yogas, des choses, des trucs. Moi, j'essaye d'en rester... parce que d'ailleurs, je ne pratique pas les yogas. Donc, j'essaye vraiment d'en rester à quelque chose de pragmatique. Voilà. Effectivement, il y a des gens qui se sont entraînés avec les souffles. Si vous avez cet entraînement-là, bah, je suppose que vous saurez quoi en faire au moment... mais là, moi, je parle de la méditation, l'observation de l'esprit, quoi. Oui, c'est parce que je voulais, par rapport à la question de Béatrice, montrer l'enjeu de se désidentifier des choses, de se désidentifier des sensations, de se désidentifier de la douleur, etc. Par exemple, on peut s'entraîner dans la maladie, tu vois. Il n'y a même pas besoin d'attendre la mort, c'est voir comment on réagit quand on est malade. Quand on dit « je me sens diminué ». Voilà, bah, apprendre justement à plongeons dans cette expérience, mais sans l'associer à ce qu'on était avant, qui dit « je me sens diminué ». Si je me sens diminué, c'est forcément en référence à quelque chose d'avant, mais dans l'instant présent, elle se goûte telle qu'elle est. Et on ne colle pas forcément d'étiquette pour dire « voilà ce qui se présente à moi, voilà ce que je suis à ce moment-là ». C'est pas facile à faire, je suis bien d'accord. Hein. Mais
par rapport à la question,
c'est pas facile.
Par rapport à la question sur la douleur, moi je me suis. Ces derniers temps, je me pose souvent la question, est-ce que on se détache justement de la douleur en essayant de se relâcher au maximum pour essayer de trouver vraiment son, je sais pas quel mot utiliser, son essence, quoi, nos 10%. Donc, parce que du coup, c'est vrai que, par exemple, si je m'imagine malade, j'entends ce que tu dis, mais à un moment donné, pour moi aujourd'hui, la seule solution que j'ai, c'est me relâcher, en pensant que le fait de relâcher, je me détache de mon corps physique, et peut-être que j'espère pouvoir.
La détente, c'est déjà.
Est-ce que c'est un chemin?
Oui, je pense que. On peut faire cette expérience-là, c'est que quand il y a une douleur, plus on crispe, plus on se rend compte que ça fonctionne pas. Et puis à force de voir ça, on finit par se dire, à défaut d'autre chose, ça la fait pas forcément disparaître, mais plus on se détend, plus on se rend compte que ça dessert. Et puis il y a parfois même des moments de répit où on pense à autre chose. On se rend compte quand on pense à autre chose, il y a cette fraction de seconde où là, on n'est plus porté sur la douleur. Voilà, ça peut être des exercices, effectivement.
Ça le fait sur le coussin, le mal au genou sur le coussin.
Voilà, exactement. On s'entraîne avec ces petites choses-là. S'entraîner, un petit mal de tête. Je dis, juste pour s'entraîner, un mal de tête, c'est supportable à partir d'un certain stade. On peut s'entraîner, voir est-ce que je peux m'entraîner ou est-ce que là, c'est trop inconfortable et je vais prendre un aspirine. Voilà. Mais l'idée, c'est de... parfois, on n'a pas le choix. De toute façon, la douleur est là et que détendre, pas détendre, de toute façon, il va falloir faire face. Mais on se rend compte que si on est plus détendu, en tout cas, c'est peut-être plus facile à gérer que si on crispe. Mais là, je parle de quelque chose. Moi, j'ai jamais vécu de...
Il faut le vivre.
Voilà.
C'est trop jeune.
Ou alors, dans des temps trop... réduits... pour m'en souvenir, enfin pour que ça m'ait marqué. D'ailleurs, il y a ma sœur qui me disait que l'accouchement c'était épouvantable. Elle a accouché il y a 6 mois, quoi, elle dit. Et puis qu'en fait on oublie. Et puis la Sacha lui disait, heureusement qu'on oublie parce que sinon on ferait plus d'enfants. Mais il y a un peu ça aussi, c'est que on sait aussi que même les grosses souffrances qu'on a vécues, des douleurs insupportables, pendant un laps de temps, par exemple un accouchement, etc. Là, je ne parle pas pour moi. Mais ça finit par passer, c'est-à-dire ça passe aussi, quoi.
C'est le regard aussi qu'on a sur la situation.
Ouais. Ouais, ça joue beaucoup, comment on traite la douleur. Ça joue énormément, mais là vraiment, c'est chacun, quoi. Là, on parle vraiment de l'aboutissement de notre pratique. Est-ce que ça va nous servir? J'ai envie de vous dire, à vous de voir, quoi. Est-ce que votre entraînement sera suffisamment régulier? Est-ce que vous entraînez dans chaque situation? Est-ce que le truc... Vous le saurez, quoi. Vous le saurez au moment où il y aura ce genre-là. Est-ce que ça a été profitable ou non? Mais si on a un entraînement qui est sérieux, on a déjà pu voir qu'on touche quelque chose qui nous fait progresser dans notre manière de traiter pas seulement les pensées, les émotions, mais aussi la douleur physique.
Et le fait de vivre une douleur physique nous fait aussi progresser aussi.
Peut-être.
Peut-être. On oublie.
Ouais. Mais ça vraiment, je vous renvoie la balle, c'est à vous de me dire, quoi. Moi, je pense que, pour ma part, oui, je gère plus la douleur physique de la même situation qu'avant. Parce que, il y a la douleur, mais il y a ce qui disparaît, c'est la double peine. C'est le fait de... Je regarde la douleur, mais sans forcément dire « je souffre ». C'est le « je » qui devient de plus en plus... qui se dissout de plus en plus pour laisser place juste à la sensation. Voilà, et puis on attend que ça passe, quoi. Le moment est dur à passer, mais...
Et la douleur nous aide à l'acceptation d'autre chose aussi.
Oui. Peut-être.
Enfin, d'autres événements qu'on vit peut-être après. Tu vois, dans le cas d'un accouchement, le fait d'avoir vécu les contractions, après tout ce qui est douleur de postpartum, l'allaitement, et puis après les complications, d'élever un enfant, parce que c'est parfois compliqué aussi. aussi, ça, il faut la patience, quand tu dors pas la nuit, etc. Si tu as vécu des douleurs de contraction, du coup, tout le reste va suivre. Ça te permet de laver ce suivi. Et ça te prépare à quelque chose. Mais on s'en rend compte qu'après. Alors, je sais pas après si la maladie, c'est vrai.
Ouais, c'est ça reste de la théorie, quoi. Mais moi, par exemple, qui suis un... qui aime bien glander, quand je suis malade, je n'éprouve pas le deuil que certaines personnes rencontrent quand elles sont clouées au lit. Il y a des gens vraiment qui supportent pas ça. Mais on se rend bien compte que du coup, dans le rapport à la maladie, on n'est pas égaux. Et si on identifie à quelqu'un qui est toujours actif, etc., bah oui, forcément, ça pose... moi, ça me pose aucun problème. Alors, mais vraiment, je me dis, ah, chouette. Alors là, plus personne peut rien me dire, quoi. DVD.
Et je suis malade.
Bon après, hein, je parle des maladies. Je parle d'une gentille grippe, d'un gentil rhume. Après, je rigole. On fait la dédicace ? Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et, sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci.
Merci.